pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui au Café Fluxus pour une nouvelle saison de l'émission Du vent dans les pages. Nous allons passer cette demi-heure en compagnie de mes fidèles lectrices passionnées et passionnantes. J'ai nommé Catherine et Anne. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci d'être venues pour cette année. On va passer... vous allez revenir souvent d'ailleurs.
C'est un plaisir pour nous aussi.
Écoutez, ça fait plaisir à entendre. Alors, vous nous avez sélectionné un ou deux livres qui vous ont passionné ou intéressé. Enfin, vous allez nous dire tout ça. Et je vous laisse tout de suite la lourde tâche d'essayer de convaincre nos auditrices et auditeurs de se précipiter pour aller chercher vos livres. Anne, vous commencez ?
Oui, d'accord, bien
Allez-y.
Sûr. Alors, mon coup de cœur de cet été est allé à une biographie écrite par Tatiana Dronet, Manderley Forever, qui raconte la vie de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier était un auteur fort célèbre au XXe, entre les deux guerres. Elle écrivait des romans noirs glaçants comme L'auberge de la Jamaïque, qui raconte une sombre histoire de contrebandier, ou Les oiseaux, des textes portés à l'écran par Alfred Hitchcock. Oui. Elle était d'origine française par son père, Gérald du Maurier, célèbre acteur à Londres. Et elle passa d'ailleurs une grande partie de sa vie en France à rechercher ses ancêtres, des Verriers sartois, pas très loin d'ici, à Bouloir et à Coudrecieux. Et elle écrivit plusieurs livres sur sa famille. Son plus grand bonheur était d'aller à Paris. Et elle raconte dans ses mémoires qu'elle allait s'asseoir à la terrasse du Dôme et elle adorait se prendre un café, regarder passer les gens. Le roman qui a fait son succès et l'a rendu mondialement célèbre, aujourd'hui encore, est Rebecca. L'histoire d'un homme déchiré entre ses deux épouses, un démon débauché et un ange de bonté. Le roman se passe dans un manoir de Cornouailles appelé Manderley. Alors, il y a là une histoire. Daphné du Maurier vivait à Londres, mais aussi en Cornouailles, où ses parents possédaient une maison de vacances. Passionnée par ce pays sauvage et tempétueux où la mer cogne violemment contre les rochers, elle en avait fait son pays d'élection, y faisait du bateau, s'y réfugiait dès qu'un problème arrivait et l'arpentait à pied inlassablement. Au cours d'une promenade, elle découvre le domaine de Ménabilly, un manoir du XIIIe siècle abandonné aux ronces, dont la vue lui donne un coup au cœur. Ménabilly est le Manderley de Rebecca. Alors, je voudrais vous lire un petit passage où Tatiana Dronet raconte comment Daphné du Maurier a découvert Ménabilly. Donc, elle va se promener avec sa sœur Angela. Et elles arrivent à travers une forêt absolument impossible, sur une pelouse envahie par les mauvaises herbes, bordée d'arbres, et Angela voit le visage de sa sœur s'éclairer. Qui peut-elle regarder ainsi avec une telle ferveur et tant d'amour? Curieuse, Angela suit la direction des yeux de Daphné, et c'est le manoir qui se dresse devant elle, Ménabilly, une vaste bâtisse haute de 2 étages, aux volets fermés, à la façade grise mangée par un épais lierre. Elles se tiennent à distance, guettent un signe de vie, mais il n'y a aucun bruit. Alors elles s'aventurent vers le manoir. Un des volets est ouvert au rez-de-chaussée. Par les vitres poussiéreuses, elles aperçoivent des tableaux au mur, des meubles recouverts de draps, un cheval à bascule à la peinture écaillée. Angela trouve l'endroit lugubre, empreint de chagrin et de solitude. Mais pas Daphné. Dans son journal, le soir même, elle écrit jusque tard dans la nuit « Je suis complètement sous l'emprise de Ménabilly ». Voilà, alors Ménabilly n'était pas allouée, et pourtant elle en a été locataire pendant 25 ans. Elle a convaincu le propriétaire, investissant tous ses gains dans sa restauration et vivant à l'année avec sa famille. Elle a situé dans ce pays sauvage la plupart de ses romans et elle y mourut à plus de 80 ans. Tatiana Dronet, avec beaucoup d'habileté et d'empathie pour son sujet, nous restitue l'atmosphère haletante qui entourait Daphné en permanence. C'était un petit bout de femme d'aspect fragile, une blonde aux yeux bleus, mais à la volonté de faire qui allait au bout de tout ce qu'elle entreprenait. Une femme au caractère volontaire, mais aussi exigeant et égoïste, qui menait sa vie en totale liberté sans se préoccuper des pressions de l'époque et grâce à sa plume en totale indépendance. Elle montrait dans ses écrits une créativité originale avec dès son adolescence une maturité étonnante et mettait en scène avec aisance des personnages malfaisants dans des situations plutôt opaques. Je vous recommande cette biographie « Manderley Forever » par Tatiana Dronet, mais aussi dans le livre de poche la réédition de Rebecca dans une traduction totalement retranscrite du texte original. Je le précise car il manquait plus de 50 pages dans la traduction précédente, éditée en 1939, la traductrice française trouvant que les pages en question ne devaient pas atteindre des oreilles françaises. Alors, ce livre, Manderley Forever, est dans le livre de poche et il est également en Kindle.
Ah oui, Kindle. Vous voilà. En avez une devant vous, d'ailleurs.
Exactement. Ouais, je suis devenue une fanaliseuse que je transporte partout.
Comme quoi, c'est vrai que les passionnés de lecteurs ne sont pas forcément traditionnalistes.
Exactement. Hein, voilà. Exactement.
Catherine, à
oui.
toi.
Eh bien, moi, je voulais d'abord vous parler d'un roman qui est sorti à la rentrée 2016, donc il y a un an. C'est le dernier roman d'Andrei Makin. Donc Andrei Makin, comme son nom l'indique, est russe. Mais en fait, il écrit en français. Il est membre de l'Académie française. Alors, il a écrit de nombreux romans, dont un, Le Testament français, qui a été prix Goncourt et prix Médicis. Voilà. Alors, ce roman, en fait, raconte... C'est une narration, c'est une aventure. On est complètement happé par une histoire. Mais en fait, cette histoire, Andrei Makin l'a vécue. C'est-à-dire qu'on a, un narrateur qui va passer le relais à un autre narrateur. Donc, c'est une forme de roman assez étonnante qui nous charme, une sorte de joueur de flûte de Hamelin. On a une sorte d'appel irrésistible et puis on s'engouffre dans cette histoire comme en apnée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est une traque qui va durer plus de 3 semaines à travers la taïga. Alors, ce roman va même au-delà puisqu'il se passe à la fois... Au début, il est dans les années 70... Cette traque se passe en 52, donc c'est la fin du régime soviétique et de l'Union soviétique. Et puis même dans la fin du roman, on se retrouve au début de notre siècle. Alors c'est un roman passionnant, fascinant, mais c'est aussi une sorte d'allégorie sur le monde, sa violence et la possibilité de trouver un autre monde. Alors, je voulais quand même vous donner une idée. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans mon histoire. Hein,
Moi, j'ai tout compris.
Bon, alors c'est formidable. Parce que c'est vrai que c'est une histoire comme ça. Voilà, c'est une histoire un peu comme ça, emboîtée.
Oui, oui.
Alors, ça commence... Je peux vous lire des tout petits extraits pour que vous ayez une idée.
Oui,
ça commence donc...
On
se retrouve dans un coin perdu, donc pas loin de la Sibérie orientale. Donc on fait connaissance du premier narrateur. À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars. Pour toutes les autres manières d'apparaître ici-bas, exister allait me suffire. Je m'éloignais du rivage quand un hélicoptère rompit la somnolence brumeuse du matin. Le seul vol de la semaine pour la petite localité de Toucourt, ce coin perdu de l'Extrême-Orient. Les passagers descendirent, chargés de valises, de cabas, de rouleaux de tapis. Un bref chaos se forma entre ceux qui venaient de débarquer et ceux qui, groupés sur le lieu d'atterrissage, s'apprêtaient à monter dans l'appareil. Une femme racontait sa sortie au cinéma, un événement. Un homme calé dans son sidecar, un lit pliant. Une nouvelle venue frissonnant sous ses vêtements légers se renseignait auprès des autochtones. Je décidai d'attendre que tout le monde soit parti avant de me remettre en marche. Et c'est alors que j'aperçus cet arrivant-là. Assis au pied d'un rocher, il vérifiait son paquetage dont les sangles fixaient des skis de chasseur, très courts et larges, recouverts de camousse, la peau dure des pattes de renne. Ici, la neige pouvait happer le voyageur même en été. Voyageur. Je devinais qu'il ne resterait pas au village ni ne poursuivrait le vol. Son but était ailleurs. Cette pensée m'unit à lui, tel un secret partagé, Nous voyons le même dessin cendré des monts, le soleil dans des éclats de coquillages et sous un amas d'algues, ce bloc de glace qui bravait la tiédeur de juillet. Je me sentis très proche de cet inconnu. Pourtant, son mystère résista. Une identité plus complexe que celle d'un simple trappeur de la taïga. C'est un autre petit passage plus loin. Marcher dans la taïga est une façon de parler. En réalité, on doit s'y mouvoir avec la souplesse d'un nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un passage s'épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces vagues de branches, de brandes, de broussailles qui déferlent sur lui. La fatigue rythmait les lentes enfilades des ciels et des feuillages qui se déployaient devant moi, devant nous, car nos pas s'accordaient. Je devinais le choix du vagabond face aux montées et aussi son plaisir d'enlever sa charge, d'entrer dans un courant, de se laver le visage et le cou couvert de pollen de pin. Ce lien entre nos solitudes me surprit au moment où il faisait halte. Il n'alluma pas de feu, mangea, comme moi, du poisson séché, but de l'eau de la rivière. Je ressentis du remords de l'épier ainsi, de violer un moment secret de sa vie. Fallait-il venir à lui, demander pardon pour cette traque ? Donc voilà le début de ce roman. Et ensuite, donc, il aborde cet étranger, ou plutôt cet étranger l'aborde, parce qu'il a tout de suite compris qu'il était suivi, il était bien plus malin que notre jeune narrateur. Et cet homme, Pavel, va raconter ce qui lui est arrivé en 52, en Sibérie. Et donc, il va raconter cette traque après un fugitif d'un camp. Et cette traque faite par 5 soldats, dont il était un de ces soldats. Et cette traque va complètement le transformer et il va se rendre compte qu'il était, disons, du mauvais côté, du côté de ceux qui pensaient mal le monde. Je peux juste vous donner, parce qu'on a peu de temps, hein, je crois.
Encore.
Ça va ?
Ouais, ça va.
En vérité, donc c'est après toute cette traque. Alors évidemment, je ne vais rien vous dire, car il y a vraiment. C'est palpitant. On ne sait pas qui ils poursuivent. Ce fugitif est très habile dans la taïga. Il n'arrive pas à l'attraper. Il est insaisissable. Il apparaît, disparaît. Et cet homme, enfin, ce fugitif tout seul, arrivera à perdre au moins 4. Des 5 hommes qui le suivent, parfois dans des conditions un petit peu dramatiques d'ailleurs. En vérité, jamais je ne m'étais sentie aussi unie à cette vie dite sauvage et à laquelle à présent j'appartenais. À partir de ce jour-là, un éloignement, plus mental que physique, allait faire évanouir le monde où les hommes se haïssaient tant. Le monde de Louskas, de Ratinsky, ça fait partie des soldats qui étaient présents. Le monde de l'abri numéro 19. Un matin, en reprenant ma marche, je me rappelais les coups que j'avais reçus au visage et très clairement, je compris qu'il n'y avait plus en moi aucune envie de vengeance, aucune haine et même pas la tentation orgueilleuse de pardonner. Il y avait juste le silence ensoleillé de la rive que je longeais, la transparence lumineuse du ciel et le très léger tintement des feuilles qui, saisies par le gel, quittaient les branches et se posaient sur le givre du sol avec cette brève sonorité de cristal. Oui, juste la décantation suprême du silence et de la lumière.
C'est marrant parce que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais quand tu lis, on sent que vraiment tu dégustes les mots.
Oui, tout à fait. J'aime les mots.
C'est cette sensation aussi.
Et sa langue est superbe. Voilà. Sa langue est superbe.
Est-ce qu'on est plutôt sur un roman où il y a un peu de, comment dire, de, pas de suspense, mais enfin, on est quand même.
Complètement.
Ça peut se rapprocher un peu du roman policier, un peu.
Policier, parce qu'il y a une traque.
Oui,
c'est vraiment une poursuite. Ouais. C'est vraiment un roman d'aventure. On peut le prendre au premier degré comme un roman d'aventure. Mmh. C'est vraiment, on a envie de tourner la page, on a envie de savoir. On est avec eux, on est dans leur corps, dans leur souffrance. On est même aussi fasciné par le pays qu'ils traversent. Mmh. Quand j'ai commencé ce roman, j'étais chercher un atlas pour savoir où ils étaient. Oui. Et c'est vrai que c'est le petit bout là-bas. Je ne sais pas si j'ai bien le prononcé, c'est la baie d'Orkhotsk, je crois. Enfin, c'est un coin perdu. Et c'est vrai qu'on est entraîné, vraiment fasciné, à la fois par le pays et par les personnages. Ouais. Donc c'est vraiment un roman d'aventure, de passion. Alors, c'est une histoire très, très rude et très puissante. C'est vraiment une marche forcée, donc cette marche forcée dans la taïga, mais avec des forts accents de politique, évidemment, puisque dans les années 50, on voit la violence des hommes entre eux, la cruauté. Donc on voit toute cette démarche et on voit le deuxième narrateur s'émanciper de ce monde qu'il avait pris comme les autres et comprendre que la vraie vie n'était pas du tout là, l'archipel d'une autre vie. Donc ce fugitif court vers un but bien géographique qui existe, mais en fait c'est aussi une métaphore, c'est-à-dire qu'il faut trouver une autre vie.
Tu peux nous rappeler
alors,
le titre.
Je vais tout dire.
Voilà, tout.
Alors, ça s'appelle L'archipel d'une autre vie. Ça a été écrit par Andrei Makin. Ça a été publié au Seuil en 2016. Je ne dis pas de bêtises. Et vous le trouvez évidemment dans toutes les bonnes librairies. Il n'y a que ça à Blois. Et dans toutes les bonnes bibliothèques. Il y est, j'en suis sûre, je l'ai entre les mains.
Donc il y a un exemplaire de moi en ce moment.
Oui, en ce moment je l'ai, mais je le rends tout de suite.
Anne, je reviens vers vous. Alors, vous
oui,
avez un
alors
deuxième
j'ai
choix.
Eu un deuxième coup de cœur, oui. Évidemment. Alors c'est totalement différent. C'est un grand roman d'aventure proposé par Arturo Pérez Revert, un grand spécialiste de l'Espagne, déjà célèbre par des romans policiers historiques comme Le tableau du peintre flamand ou La saga du capitaine à la triste. Alors il s'agit ici d'un périple rocambolesque de deux académiciens espagnols qui sont envoyés en France par l'Académie de façon tout à fait officielle pour acheter un exemplaire original de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il s'agit d'une histoire vraie au départ. Hein, il y a bien un exemplaire de cette encyclopédie à l'Académie d'Espagne à laquelle est inscrite Arturo Pérez Revert d'ailleurs. Alors, nous sommes en 1783 et l'Académie d'Espagne souhaite importer cet ouvrage considéré comme le résumé des connaissances des Lumières dans un pays encore tenu dans l'ignorance et les craintes de l'Inquisition. Alors naturellement, tout le monde n'est pas d'accord à l'Académie et ces deux gentilshommes ne savent pas qu'un sbire est envoyé à leur trousse par deux des académiciens qui sont opposés à l'entrée des Lumières en Espagne. Alors, ils arrivent à Paris et là, persuadés que l'ambassadeur d'Espagne va les aider. Et en fait, l'ambassadeur d'Espagne n'en a rien à faire. Et donc, il les met dans les mains d'un abbé aux idées contestataires, à l'habillement douteux, enfin, vraiment, pour ainsi dire, révolutionnaire. D'ailleurs, cet abbé qui a existé était très ami avec Robespierre. On a des amitiés comme ça, sulfureuses. Donc, guidés par cet abbé, qui a ses entrées partout, ils vont arpenter le Paris élégant, fréquenter des salons huppés, rencontrer des personnages connus, d'Alembert, Condorcet, Benjamin Franklin, c'est la bonne époque. Cet abbé leur fera par contre découvrir aussi, suivant ses propres idées, le Paris miséreux, où se fomente déjà une révolte sourde qui aboutira à la Révolution. Et il leur fait comprendre ainsi le hiatus entre la Révolution pacifique prôné par les intellectuels et le raz-de-marée de violence qui les menace. Alors, je vais vous lire un petit passage à ce sujet. Nous sommes au café Procope. Nous avons Franklin, Condorcet qui doutent des résultats de cette révolution des Lumières. Et de l'autre côté, nous avons d'Alembert qui a des idées assez personnelles sur le sujet. D'Alembert leva les deux mains en signe de conciliation. « Nous sommes en train de confondre deux mondes, dit-il avec mesure, l'Europe et l'Amérique, la maturité et la jeunesse, l'huile et l'eau. Je suis certain que, quelles que soient nos idées, nos théories et nos désirs, jamais ils ne provoqueront de révolutions soudaines et violentes. » « Je n'en suis pas sûr, insiste Condorcet. « Moi, je le suis, parce que les esprits des peuples peuvent s'enflammer pour ce qui est bon et noble, quand on le leur propose, et la philosophie moderne le peut. Tout délire, toute commotion brutale que pourraient engendrer nos idées sont à écarter. En Europe, sur le vieux continent, n'importe quelle révolution s'accomplira, non par la violence, mais au terme de longues réflexions et après bien des raisonnements. » Un silence suit. Alors, on l'appelle l'amiral parce que c'est un grand marin, mais c'est un académicien aussi. Donc, c'est l'académicien se tait. D'Alembert reprend. « S'il était certain que les compatriotes de M. Franklin ont besoin de mousquets et de poudre pour se faire entendre, notre Europe plus vieille, au raisonnement plus mûr, n'a d'autre devoir que de connaître et de respecter les lois, les règles que les lois et la raison prescrivent. Pour notre révolution, messieurs, nous n'avons pas besoin d'autres armes que celles des livres et des paroles. » L'amiral le regarde. « Jamais, songe-t-il, vous ne vous êtes trouvé à bord d'un navire balayé par la mitraille et les explosions, conscient de ce que recèle alors le cœur d'un homme. Dans la fausse sécurité de ce café, de vos manières éduquées, votre conversation d'homme cultivé, de vos belles idées philanthropiques, vous oubliez les malheureux et tous ceux qui ruminent les offenses. L'armée des ombres qui remâchent leur rancune et leur désespoir dans les coins obscurs des cafés et les faubourgs, où ne parvient guère la lumière de la raison et de la philosophie. Vous vous oubliez. Il a envie de donner un coup de poing sur la table, mais finalement, il prend sa tasse de café et ne dit rien. Nos deux Espagnols, bien entendu, viennent d'un pays où il y a une ignorance crasse. Donc, comme les deux persans de Montesquieu, ils s'étonnent, ils s'émerveillent, ils critiquent le Paris des gazettes. Oh, mon Dieu, tous ces gens qui parlent, des imprimeurs, des colporteurs, des pamphlétaires, et découvrent émerveillés le Café Procope et le Jardin des Tuileries. L'originalité de ce roman, qui a pour base une histoire vraie, comme je vous le disais tout à l'heure, est l'implication de l'auteur qui, au début de chaque chapitre, nous raconte ses recherches fouillées, les volumes qu'il a consultés, les cartes de l'époque qu'il a utilisées, comparées aux routes actuelles en Espagne et en France. Il va consulter des libraires qui existent d'ailleurs, boulevard Saint-Germain ou dans l'île Saint-Louis, et qui lui ressortent des documents absolument incroyables. Le style d'Arturo Pérez Reverte est très enlevé, léger, d'une érudition sans faille. On suit ses héros sympathiques avec un intérêt de plus en plus passionné au fil de l'histoire. Et on tremble pour eux lorsque l'homme de main, aidé d'un policier véreux, leur tend des pièges tordus. Bref, un beau roman d'aventure à déguster avec plaisir. Alors ce livre vient de sortir, il a été édité en avril 1917, mon Dieu, au Seuil. Donc, et on le trouve également sur, en liseuse. Donc, je pense qu'on doit le trouver aussi à la bibliothèque.
Oui,
voilà.
Merci,
j'ai vérifié.
Beaucoup. Je suis désolée, comme c'est une version courte du Vent dans les pages, il nous reste 5 minutes, Catherine.
Bon, on va parler vite.
Voilà, est-ce que tu peux nous dire ton deuxième choix?
Voilà, je vais très rapidement vous parler de mon deuxième choix, qui n'a strictement rien à voir, quoiqu'on visite aussi un autre pays. Il s'agit du dernier livre de Brigitte Giraud. Ça s'appelle « Un loup pour l'homme ». Ça a été publié chez Flammarion. Donc, il est sorti là en septembre. En fait, c'est un roman qui parlait de la guerre d'Algérie. Et en cette rentrée, il y a plusieurs romans, il y en a au moins 3, qui abordent ce sujet. Antoine, le héros, vient d'être appelé à servir en Algérie. On est en 60-62. Il doit quitter sa jeune épouse, Lila, et, qui est enceinte. Et ils ne sont pas sûrs de vouloir garder l'enfant dans ces conditions-là. Elle ne veut pas se retrouver seule avec un enfant. Et puis Antoine, lui, ne veut pas combattre. Donc, il a demandé à être infirmier. Donc, il part. Il part dans cette entreprise soi-disant de pacification. Alors, c'est une histoire, rapidement, pour dire, qui se confond avec celle de l'auteur. Brigitte Giraud a mis des années à aborder cette histoire. Elle est née à Sidi Bel Abbès, car sa mère, enceinte, a décidé de rejoindre son mari, qui avait été appelé, jeune appelé, en plein conflit. Donc, cet Antoine, ce héros, sera de la guerre ce que lui raconte ou pas ce qu'il essaie de soigner. C'est une image de la guerre qui ne dit pas son nom, image de cette part d'humanité qui sauve de l'horreur, il y a les deux, puisqu'il soigne, image d'un pays solaire et attirant, car l'Algérie est belle, l'écriture aussi est très belle, très prenante, très efficace, beaucoup de verbes, des phrases courtes, elle ne se perd pas en dialogue, c'est vraiment, je veux dire, un peu une écriture à l'os, mais qui nous prend complètement.
On suit le personnage
d'Antoine
tout au long du...
Voilà, on suit ce personnage et ce qui n'est pas binaire, il y a à la fois rejet et attirance pour ce monde. Hein. Alors, ce qui est curieux, c'est aussi l'un qui ne veut pas porter les armes, l'autre qui ne veut pas porter un enfant sans le père de cet enfant. Donc, elle accepte de le porter et elle va rejoindre son mari pendant cette guerre qui ne dit pas son nom. Je vais essayer de vous lire rapidement un extrait, si j'ai encore le
temps. Une minute.
Il va être court, l'extrait. Alors je ne sais pas si je vais prendre celui-là, parce qu'il est un peu long. Il faudra m'arrêter. Deux jeeps sont arrêtés près d'un muret sur un terrain brûlé par le soleil. Plus haut, un âne gît sur le flanc. Ils sont sous les yeux des bottes de paille défaites. Tout le monde descend. Les hommes se répartissent le matériel, les armes, les civières, marchent au pas de course sur les rochers. Ils sont attendus par un lieutenant qui les guide en courant jusqu'à l'orée du bois, un endroit avec du lichen et du sang sur les pierres. C'est la première fois pour Antoine. la vision tant redoutée. Il ne sait pas vers quel corps se diriger, il va se contenter d'exécuter les ordres. Le médecin ne sait plus où donner de la tête. Il y a les morts et les vivants. Les corps inanimés mis de côté dans les plaies attirent déjà les mouches qu'un camion viendra chercher et ceux qui se tordent dans les herbes sèches. Avec le ventre, les cuisses ou les parties broyées par les balles, à qui les copains ont fixé un garrot de fortune, on dit des mots réconfortants en attendant les secours. Antoine n'a jamais eu devant lui un garçon entre la vie et la mort qui attend tout de lui, qui s'est déjà vidé d'une partie de son sang. Il voudrait savoir se servir comme avant d'une compresse, d'une seringue. Il voudrait ne pas se laisser atteindre par les tremblements du blessé, ses halètements et son regard suppliant. Il faut qu'il calme ses mains et son cerveau soudain inopérant. Il a honte de se sentir si peu efficace, pas assez virtuose dans sa façon de manipuler et de penser. On installe le corps sur le brancard. Antoine fixe la perfusion, le goutte à goutte opère. L'hémorragie est stoppée en apparence. Ce petit à petit, le soldat se calme. Antoine s'est ressaisi. Il a accompli le protocole d'Urlange. Il a peut-être sauvé le soldat. Il espère, il prie.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre.
Oui, bien sûr. Oui, oui, le titre, donc, les éditions.
Brigitte Giraud, Un loup pour l'homme, édition Flammarion. C'est sorti en septembre 2017.
Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolée que ce soit trop... Enfin, c'est trop court, évidemment, comme d'habitude. On a encore voyagé entre des personnages, des époques. J'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup. Rendez-vous au mois prochain.
D'accord. Hein.
Merci encore à vous deux. À bientôt à la radio dans Du vent dans les pages sur Studio Zef.